Bonjour et bienvenue dans la danse des mots qui aujourd'hui se réjouit de retrouver la puce à l'oreille qui va revenir comme tous les mercredis après quelques vacances bien méritées présentées par Lucie Bouteloup. Mais auparavant, je vous propose une étape à Figeac, charmante ville du sud-ouest de la France où on a un musée Champollion qui est un musée de l'écriture. Et ce musée présente une exposition tout à fait intéressante jusqu'au 1er novembre qui s'intitule 4000 ans d'écriture secrète cachée codé. Alors, j'ai rencontré le commissaire de l'exposition, qui est directeur du musée, Benjamin Findinier, et également Stéphanie Le Breton, qui m'a fait visiter cette exposition. Stéphanie Le Breton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, en particulier avec Benjamin Findinier, qui est directeur du musée Champollion et commissaire de cette exposition, vous êtes l'une des responsables de cette exposition cachée, codée, et vous étiez en train, quand je suis arrivé, de vous émerveiller devant une très belle pièce, en effet, qu'on voit dans cette exposition qui est consacrée à tous les codes qui servent non pas à ce qu'on comprenne, mais à ce qu'on ne comprenne pas ce qui est écrit. Vous étiez en train de vous extasier devant cette très belle pièce. Alors, avant qu'on aille plus avant dans cette exposition, Stéphanie Le Breton, dites-moi un petit peu ce qu'on voit sous cette loupe.
Alors, on voit une minuscule tablette qui provient de Mésopotamie, qui est un des objets à la fois les plus anciens et les plus précieux que nous présentons dans cette exposition. C'est une tablette qui, même aujourd'hui, présente des difficultés quant à sa signification, mais la façon dont le scribe s'y est pris à l'époque pour la rédiger, tellement l'écriture est microscopique. Donc on a plusieurs hypothèses, et notamment Béatrice André Salvini, qui est conservatrice au département des Antiquités orientales du Louvre, qui a bien voulu nous prêter cette tablette, émet même l'hypothèse que c'est sans doute un myope. Donc ce qui lui a permis d'avoir une vision.
C'est un myope, c'est-à-dire
qu'il avait des difficultés de vue. Et
que le scribe, il voyait mal, et c'est pour ça que c'est écrit si petit.
Voilà, tout à fait. Enfin, que sa myopie l'a aidé dans la rédaction de caractères si petits, de même qu'il a sans doute utilisé des outils conçus spécialement pour rédiger cette tablette, qui est un objet tout à fait unique, et on n'en rencontre pas d'autres dans le monde entier. Et donc, les micro-caractères que l'on trouve ont été sans doute rédigés grâce à la fabrication de deux roseaux vidés qu'il a placés sur l'objet et qui l'ont aidé à focaliser sa vision sur ce qu'il était en train d'écrire. Et sans doute avec une pointe très fine, il a inscrit cette argile tendre à l'époque qui a fini par sécher et qui nous est présentée aujourd'hui.
Alors là, c'est un code donc tout à fait particulier parce que si c'est difficile à comprendre, c'est simplement que c'est écrit en tout petit.
Tout à fait, oui, c'est ce qu'on appelle la micrographie. Oui. On va réduire le signe au maximum pour qu'il ne soit pas lu. On fait presque disparaître l'écriture. Ça relève des procédés de la stéganographie qui vise à dissimuler l'écriture, et il faudra ensuite l'agrandir de très nombreuses fois pour comprendre la signification du message.
Alors, on voit que cette idée de cacher ce qu'on écrit, elle est extrêmement ancienne, ce qui est bizarre parce que l'écriture, depuis sa naissance, encore aujourd'hui mais beaucoup moins, est réservée à ceux qui savent lire, donc pas à tout le monde. Et parmi, dans cette élite, ceux qui justement savaient lire, on essayait d'en exclure une partie pour que ce qu'on écrivait ne soit déchiffrable qu'à une autre partie.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et les procédés de cryptage, de dissimulation, de chiffrement, en fait, coexistent pratiquement avec la naissance de l'écriture. C'est-à-dire que dès le moment où l'homme a su écrire, a su coder sa pensée et la transmettre par le biais de signes, de pictogrammes, eh bien, il a aussitôt aussi songé à dissimuler cette même écriture.
Je peux écrire, donc je peux être lu, et à partir du moment où je peux être lu, je ne veux pas être lu par tout le monde.
Je veux
choisir ceux qui pourront déchiffrer ce que j'ai voulu dire.
Oui, tout à fait. Alors, ça se fait sur plusieurs principes, et ça se fait aussi dans différents domaines, c'est-à-dire qu'on va le faire au départ, semble-t-il, d'un point de vue stratégique. C'est la diplomatie, c'est le monde de la guerre, dès l'Antiquité, à Sparte, ou plus tard, à l'époque de Jules César, on va coder, chiffrer des écritures, mais tout au long de l'histoire de l'écriture, jusqu'à aujourd'hui, on crypte, on chiffre, on dissimule, et d'un point de vue magique, d'un point de vue médical, d'un point de vue amoureux, donc en art, en littérature, le code et le chiffre coexistent également.
Vous parliez de Rome et vous parliez de Sparte. Cette référence à Sparte, au lacédémonien, quelle est-elle? Là, c'était un cryptage guerrier, justement, pour éviter que les ennemis sachent quelles étaient étaient les plans de ceux qui voulaient communiquer entre eux, c'est ça ?
Oui, nous présentons un exemple de ce qu'on appelle la citale spartiate, que nous connaissons...
Oh, qu'est-ce que c'est que la citale spartiate ?
Nous connaissons ça grâce à Plutarque, qui bien des années après l'a très justement décrite. Et en fait, à l'époque de Sparte et des généraux spartiates, eh bien, chacun de ces généraux avait un bâton. Et grâce à ce bâton, il pouvait lire des messages qui étaient pré-écrits à l'avance et qui pouvaient voyager en étant tout à fait dissimulés, puisqu'on rédigeait le message sur une bandelette de cuir, par exemple. Donc, on enroule une première fois la bandelette de cuir autour du bâton. On rédige son message en prenant bien garde de mettre les lettres bien à l'horizontale les unes à côté des autres. Puis, on recommence sur la ligne en dessous. Ensuite, eh bien, on déroule la lanière de cuir. On peut s'en servir, par exemple, de ceinture, la nouer de façon très anonyme autour de son pantalon.
Et si quelqu'un la voit, ça ne veut rien dire du tout. Parce que les lettres ne sont pas à côté les unes des autres. Et pour découvrir le sens, il faut la réenrouler sur un bâton semblable où les lettres sont alignées pour donner leur sens, c'est ça ?
C'est tout à fait ça. Donc on voyage anonymement avec sa ceinture, sa lanière, et une fois que l'on a rencontré le destinataire du message, eh bien lui se charge de le réenrouler autour de son bâton pour comprendre le message qui lui est destiné.
Et ça s'appelle une citale alors ?
Citale.
Et c'est le bâton qui s'appelle la citale ?
Oui, tout à fait. Oui.
Et puis alors, dans cette exposition, toujours au musée Champollion de Figeac, eh bien Stéphanie Le Breton, vous parlez de César et du code de César. Qu'est-ce que c'est que le code de César ? J'ai jeté un coup d'œil tout à l'heure. Celui-là m'a pas l'air trop difficile. C'est un des rares que j'aurais pu déchiffrer, si on m'avait aidé. Hein.
Oui, tout à fait. C'est un code qui est un code... Alors, on dit chiffré, mais ça marche avec les chiffres ou les lettres. En fait, c'est le principe de substitution. On va remplacer une lettre par une autre, mais ça va être systématique. Et le principe du code ou chiffre de César, c'est qu'il décalait de 3 ces lettres. Donc, si vous voulez, au lieu d'utiliser le A, il va remplacer le A par le D.
Oui. Et
le
A, B, C, D.
Voilà.
B, C, D, E.
Exactement.
C, D, E, F.
Ouais. Oui, et ainsi, comme ça, faire transiter un texte et le code étant connu du destinataire du texte, celui-ci pourra assez facilement le déchiffrer.
Alors, je disais, de façon un tout petit peu hâtive et un peu naïve, que c'était pas si difficile, mais c'est vrai que on peut se repérer dans un texte comme ça parce qu'on peut essayer de voir quelles sont les lettres qui reviennent le plus souvent, sachant par exemple qu'en français la lettre la plus fréquente, je crois que c'est le E. On regarde la lettre la plus fréquente dans le code chiffré, on se dit que ça doit représenter un E, et ensuite graduellement on peut arriver à trouver quel est le code.
Tout à fait, c'est ce qu'on appelle l'analyse de fréquence, la fréquence des lettres utilisées qui change, comme vous le faisiez remarquer, d'une écriture à l'autre. Et on sait par exemple effectivement que le E dans l'écriture française va revenir à peu près autour de 20% de la totalité d'un texte, et donc quand on rencontre cette lettre là, eh bien c'est une de celles effectivement que l'on peut repérer en premier.
La danse des mots, Yvan Amar.
Nous sommes toujours donc dans la danse des mots avec vous, Stéphanie Le Breton, toujours au musée Champollion et à Figeac, dans cette belle exposition sur les codes secrets. Donc dans cette exposition, on a beaucoup d'exemples de ce désir de chiffrer des messages stratégiques ou des messages tactiques. On parle beaucoup justement de chiffrer et de chiffres. Pourquoi ? Quelle est l'origine ? Pourquoi on dit déchiffrer un texte justement ? Est-ce que vous savez à quoi ça correspond ?
Chiffrer, c'est transformer un texte clair en texte codé. Et donc déchiffrer, c'est l'inverse. C'est partir d'un texte codé et le rendre clair.
Ouais. Et on a d'autres exemples donc de ces utilisations guerrières des chiffres divers.
Oui, les exemples sont assez divers en termes de thèmes et de chronologie ici dans l'exposition, puisqu'on présente de l'époque de la Renaissance une boîte à chiffrer du roi Henri II, un objet très précieux dont on n'a pas encore compris tout à fait le fonctionnement à l'heure actuelle, mais dont on suppose qu'il permettait justement par système de substitution de substituer une lettre à un chiffre.
Ah, elle est étonnante, elle est fort belle, hein. Qu'est-ce que c'est du cuivre ?
C'est du cuivre, tout à fait, oui.
C'est du cuivre doré, gravé, avec des espèces de roues
de roues
avec des croix qui sont inscrites dedans.
Oui, qui leur permettent en fait d'être manipulées, donc ces petites croix qui permettent de faire tourner d'un cran à chaque fois, puisque ces roues sont inscrites à la fois de lettres pour certaines et de chiffres pour d'autres, et donc ils permettent comme ça, au fur et à mesure que l'on les manipule, de substituer une lettre à une autre et donc de chiffrer un texte, ce qui existait déjà à la Renaissance.
Et là, c'était probablement aussi guerrier que politique, en fait.
Diplomatique, mais on sait aussi que c'est un objet qui est tout à fait précieux, et à une époque où on aimait les objets précieux, donc il est probable qu'elle ait été faite autant pour le plaisir des yeux que pour son utilité propre.
Oui. Mais d'ailleurs, les chiffres diplomatiques sont encore tout à fait à l'honneur de nos jours. Hein. On sait bien que d'une ambassade à l'autre, si on ne veut pas être compris, si on écrit à ses supérieurs, on va travestir ce qu'on veut exprimer pour que le destinataire soit le seul à pouvoir comprendre.
Oui, tout à fait. Et quand on parle de chiffres, donc souvent c'est de la substitution finalement de lettres. En revanche, on a un bel exemple avec Napoléon qui lui utilisait vraiment des chiffres. Et on a la chance d'avoir bénéficié de près des archives nationales et du service historique de la défense du château de Vincennes, de minutes et de lettres de la main de Napoléon où on voit écrit justement sous le texte clair, le chiffrement, et un tableau de chiffrement nous permet de voir quel mot correspondait à quel chiffre. Ces tableaux étaient présents dans tous les corps d'armée de Napoléon, changés régulièrement évidemment pour qu'ils ne soient pas découverts et analysés trop rapidement, et permettaient de passer comme ça des messages d'un corps d'armée à l'autre, d'un soldat à un autre.
Donc très souvent, il y a des manipulations, en fait, des manipulations de lettres ou bien des correspondances de lettres à chiffres avec des trucs qu'on retrouve d'ailleurs fréquemment dans la poésie, par exemple les acrostiches. Dites-nous un petit peu ce que c'est qu'un acrostiche, Stéphanie Le Breton.
Alors un acrostiche, ça consiste en fait à écrire un texte dans lequel on ne voit pas forcément de code ni de chiffres, donc apparemment le texte est clair, mais si l'on regarde si le texte est en colonne par exemple, la première lettre de chacune des lignes de ce texte, on va lire un autre mot. Et nous avons un très bel exemple d'acrostiche dans l'exposition, à l'intérieur d'une lettre d'un soldat de la Première Guerre mondiale, Jules Puech, qui écrit à son épouse, veut lui donner des informations qu'il n'a normalement pas le droit de lui donner parce qu'elles sont jugées secret défense, il pourrait être puni pour cela. Eh bien, plutôt que de laisser son épouse dans le doute de sa position géographique, de son activité, il va choisir, par l'acrostiche, de lui faire savoir où il se trouve.
Donc c'était une correspondance à la fois conjugale et stratégique. De temps en temps, il y a des correspondances amoureuses dont la stratégie est tout autre.
Tout à fait. Et les archives nationales nous ont prêté une très rare lettre de Marie-Antoinette à son supposé amant, Axel von Fursen, à l'intérieur de laquelle elle parle beaucoup de stratégie militaire tout de même et politique, puisque c'est l'époque où elle est déjà été arrêtée, où elle est emprisonnée et où von Fursen et d'autres travaillent à sa libération. Mais elle chiffre la fin de sa lettre en lui transmettant un très beau message amoureux que l'on peut voir à la fois dans la partie chiffrée de la lettre, mais la main d'Axel von Fursen est venue transcrire le chiffre de Marie-Antoinette.
Ah, on a la transcription de la part de l'amant.
Oui, tout à fait. Ce qui est une chance puisque c'est un très rare cas sur ce type de lettre.
Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante danse.mots@rfi.fr.
Toujours la danse des mots, toujours au musée Champollion et à Figeac, dans cette belle exposition qui est d'ailleurs dans un très bel endroit. Stéphanie Le Breton, dites-nous un petit peu où on est.
Alors nous nous trouvons dans l'annexe du musée Champollion, qui est une salle que nous réservons tous les ans à nos expositions temporaires, puisque musée Champollion est la demeure natale de Jean-François Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes. Nous présentons des collections permanentes toute l'année qui sont en lien avec le déchiffreur des hiéroglyphes. Comment s'y est-il pris pour déchiffrer ces hiéroglyphes? Donc il y a des collections égyptiennes, les rituels funéraires, les dieux, des objets inscrits. Et puis dans le musée, nous présentons également à partir des hiéroglyphes qui sont une des plus anciennes écritures inventées par l'homme, la naissance des écritures. Donc de la Mésopotamie en passant par la Chine, les Mayas et bien sûr l'écriture égyptienne, on déroule le fil de l'histoire de l'écriture jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'ère numérique. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas tout dire. Donc tous les ans,
c'est le principe du chiffrage d'ailleurs.
Tout à fait. Tous les ans, en complément de nos collections permanentes, nous présentons une exposition temporaire dans cette annexe qui est à quelques mètres à peine du musée Champollion et qui nous permet dans ce bel espace, qui est une salle médiévale, hein, tout comme le musée, de présenter des collections et de développer un thème que nous n'avons pas l'espace dans nos collections permanentes de développer.
Donc cette année, c'est consacré au chiffrage, aux codes divers, et parmi les thèmes qui irriguent cette exposition, on trouve justement celui de la médecine et de la religion. Alors, la médecine a beaucoup codé ses connaissances aussi, c'est étonnant ça.
Alors, c'est pas tellement ses connaissances qu'elle codait la médecine, c'était plutôt ses façons de guérir. C'est-à-dire que, notamment en Orient, on a beaucoup utilisé les amulettes pour réduire à néant les démons qui pouvaient provoquer différentes maladies. Donc, ces amulettes, elles pouvaient prendre la forme de monnaie qui était inscrite de signes, pas toujours lisibles par les hommes, mais conçues pour être lisibles par les dieux démonifuges uniquement.
Démonifuges, c'est-à-dire qu'ils faisaient fuir les démons.
Tout à fait. Et on trouve aussi des amulettes papier, sur papier de riz, qui étaient donc de la même manière inscrites avec des invocations, des choses qui n'étaient pas forcément lisibles par l'homme, mais que le malade pouvait ingérer, puisque ce papier de riz est tout à fait comestible, et il était guéri de l'intérieur par ces écritures qui étaient la plupart du temps codées.
Alors, un dernier mot, Stéphanie Le Breton, sur cette exposition de Figeac sur codé et caché, puisque vous parlez également de littérature. Et c'est vrai que ça fait partie du plaisir de la littérature, de l'écrire et de la lire, de voir que justement, ça ne se donne pas du premier coup à tout le monde. Est-ce qu'il y a beaucoup de messages codés en littérature ?
Bien évidemment, sans doute certains encore que l'on n'a pas décodés, mais certaines sociétés ont plus codé que d'autres, et notamment quand on parle d'art, quand on parle de littérature, on pense notamment aux micrographies et à la Perse. On présente notamment un des objets les plus agréables à regarder, je dirais, est une très belle micrographie persane que nous a prêté la Bibliothèque nationale de France. On voit, quand l'on regarde au premier abord ce document, une sourate joliment calligraphiée. Mm-hmm. Et quand l'on s'approche d'un peu plus près, on voit qu'à l'intérieur des lettres arabes qui composent cette sourate, il y a un second message, puisque les lettres elles-mêmes sont faites de d'autres lettres micrographiées qui rendent comme ça cette sourate tout à fait exceptionnelle à regarder.
Donc il y a un texte dans le texte, et le premier texte cache le second d'une certaine façon, parce que on ne s'attend pas à ce qu'il y en ait un deuxième derrière le premier.
Oui, tout à fait. C'est une volonté, je pense, au départ. Hein. On va donner un premier message, et puis là, il va falloir faire l'effort d'aller chercher la seconde information, de se pencher, d'observer et d'aller au-delà de cette première image.
Merci encore Stéphanie Le Breton. Je vous rappelle que cette exposition se tient donc à Figeac au musée Champollion jusqu'au 1er novembre. 4000 ans d'écriture secrète, cachée, codée. Et maintenant, c'est l'heure de trouver notre puce à l'oreille avec Lucie Bouteloup.
La puce à l'oreille.
Bonjour Yvan.
Bonjour Lucie.
Alors, ces vacances au soleil, ça vous a fait du bien ?
Parasol, transatlantique, crème solaire, bah, c'était formidable.
Bon, arrêtez, vous me faites rêver avec tous ces souvenirs, moi
je
c'est vrai.
Je ne peux pas vous faire rougir vu la mine resplendissante que vous arborez.
C'est gentil. En tout cas, le soleil, la plage, les apéros tardifs avec les copains, les voyages, les rencontres, la belle vie, quoi, tout ça, c'est fini. Enfin, pour un temps. Et pour ceux qui ont mené une vie de bâton de chaise pendant les vacances, je ne dis pas ça pour vous, bien sûr, Yvan. Il va désormais falloir calmer un peu le jeu pour se concentrer et se remettre au boulot. Mais avant les résolutions, encore faut-il savoir de quel bâton et de quelle chaise nous parlons. Et pour nous éclairer sur le sujet, c'est Sylvie Brunet qui va nous accompagner aujourd'hui pendant cette puce à l'oreille. Bonjour Sylvie Brunet.
Bonjour.
Alors avant vos explications, j'ai voulu savoir si mener une vie de bâton de chaise, ça parlait à tout le monde. Écoutez plutôt ces jeunes ados parisiens à l'imagination très fertile.
C'est genre, t'as beaucoup de poids sur les épaules. Parce que les bâtons de chaise, ça soutient la chaise. Donc du coup, ça veut dire que t'es un peu un pilier, quoi.
N'importe quoi. Un bâton, ça parle pas. C'est ça a une seule forme. C'est long. Ça fait rien. C'est un bâton. C'est inutile. T'as pas une vie intéressante. Enfin, t'es nul, quoi. Une bâton de chaise.
Mener une vie de bâton de chaise, c'est avoir une vie différente des autres. C'est être un peu sans amis.
Bah, parce que s'il se rapproche du bâton de chaise numéro 2, et bah après, dans le point numéro 1, il y a un déséquilibre. C'est-à-dire que la chaise tombe. Et cette chaise, c'est peut-être l'image de sa vie. Ou alors la vie des autres.
Ça fait penser au zizi, le bâton. Parce que c'est un bâton à l'appareil reproducteur masculin.
Ça dépend là, du bâton.
Mais là, c'est un bâton de chaise.
Ah, ouais, c'est fin quand même, non? Enfin, je sais pas, je... Si, c'est fin. Hein.
La puce à l'oreille.
Ah, le bâton, le zizi, difficile d'y couper. Alors, Sylvie Brunet, où est-ce qu'on en est?
Alors, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes idées, pas forcément du côté du zizi, mais le zizi aussi, on y viendra.
Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, mener une vie de bâton de chaise?
Alors, mener une vie de bâton de chaise, ça veut dire avoir une vie très agitée, très désordonnée.
Un peu dissolue.
Avec des fréquentations, beaucoup de plaisir, de débauche. Voilà ce que ça veut dire. Et il faut débusquer la chaise qui se trouve derrière. Et c'est pas une chaise telle que nous, on le penserait, mais c'est la chaise à porteur.
Il faut juste préciser que donc la chaise à porteur, c'était une sorte de cabine, en fait.
Oui.
À l'intérieur de laquelle il y avait une chaise, sur laquelle était assis un voyageur.
Le voyageur.
Et
oui.
Le voyageur était porté par deux porteurs, oui. Exactement, grâce à deux bâtons qui étaient sur les côtés latéraux de la cabine.
Absolument.
Et qui étaient donc amovibles.
Et qui étaient amovibles, et qui étaient absolument amovibles parce qu'ils empêchaient d'ouvrir la porte. Donc, dès qu'on était arrivé à destination, il fallait les retirer pour pouvoir faire sortir la personne que l'on transportait.
Donc les porteurs amenaient leurs voyageurs et après, qu'est-ce qui se passait?
Alors quand on amène ces voyageurs et qu'on porte les bâtons de chaise, eh ben imaginez, il y a des chaos un petit peu sans arrêt sur la route, les trottoirs de Paris sont défoncés, ça secoue beaucoup. C'est une vie qui est pas très facile.
Pas très confortable.
C'est pas très confortable.
Mais là, on n'est pas encore dans l'idée de la débauche.
Mais la débauche, c'est quand on a déposé son maître, souvent c'est sur un lieu pas très fréquentable, et c'est là que les porteurs sont obligés de garder leur bâton pour ne pas qu'on les leur dérobe, et à ce moment-là, ils sont souvent sur des lieux pas très fréquentables.
Et emmener leur bâton pour
pas
se les faire voler.
Leur bâton, qui, même à l'occasion, leur servait à se battre. Imaginez la vie de ces bâtons. Vie dissolue, vie de combat, vie trépidante. On ne tient pas en place, on est sans cesse secoué, remué. Voilà une vie de bâton de chaise.
Une vie d'excès, quoi.
Une vie d'excès.
Alors, il y a une expression synonyme aussi qui est mener une vie de patachon et qui vient un petit peu de la même origine puisque le patachon...
C'est le conducteur de l'ancienne diligence qu'on appelait la patache. C'est pareil, on est très secoué.
Il me semble qu'il n'y a plus cette idée de difficulté pour le patachon, d'inconfort.
Oui, il y a moins l'idée dissolue qu'on a repérée et davantage une idée d'inconfort et puis de dire non, c'est pas une vie, quoi, c'est pas possible.
Alors, mener une vie de bâton de chaise, est-ce que c'est une expression qui est encore beaucoup utilisée?
Eh bien, apparemment, les jeunes que vous avez interrogés ne la connaissaient pas.
Non, pas du tout.
Ouais. Je pense qu'elle a fait florès. Je dirais au milieu du XXe siècle, moi je la situerais chez des auteurs effectivement comme Frédéric Dard ou comme Simonin, mais depuis elle a perdu beaucoup de terrain et je ne suis pas sûre qu'on l'emploie encore spontanément.
Mais alors moi que je ne suis pas si vieille autour de moi, mes amis l'utilisent cette expression.
Ils l'utilisent encore. La vie de patachon, par contre, a bien survécu, sans doute. Parce que on ne comprend pas, un patachon, on s'imagine que c'est un pauvre type, on connaît pas l'origine, mais peu importe. Mais là, pour les bâtons de chaise, on se dit, tiens, c'est bizarre et on comprend pas. Donc, quand on comprend pas, ça sort de l'usage, on écarte. Mais il y avait aussi un usage que fait remarquer Claude Duneton, beaucoup plus tendancieux. Selon lui, on revient aux zizi de tout à l'heure. Selon lui, ça pourrait être une corruption de l'expression « mener une vie de bâton de chair ». Et voilà.
Ah, puisque on reste décidément dans les expressions suggestives avec vous, Sylvie Brunet.
On n'en sort pas, effectivement.
Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre aide. Je rappelle que vous êtes l'auteur du dictionnaire coquin de l'amour et du sexe paru aux éditions de l'Opportun. Il est temps de retrouver Yvan et je vous donne rendez-vous probablement dans une autre puce à l'oreille très bientôt. Au revoir, Sylvie Brunet.
Au revoir, merci.
On se quitte donc avec Thomas Fersen. Merci à la puce, merci à Lucie Bouteloup et merci à vous auditeurs d'avoir écouté donc La Danse des Mots, une émission proposée par le réseau Canopée et par RFI. Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Amar.
Une chauve-souris, demoiselle de la nuit. Une chauve-souris, elle met un parapluie. Elle va chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie. Venait au Père Lachaise,